CO2 mon amour avec Honda Automobile, constructeur de véhicules hybrides essence électrique.
Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un caoué.
Mon amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de penser en rond, en tout cas qui essaie, et qui essaie aussi de prendre le temps de ne pas aller vite. Un grand merci aux équipes techniques de Radio France ici dans ce Salon du Livre, et particulièrement à Yann Fressy et Pascal Baudin aujourd'hui, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayastaraï qui réalise l'émission. Alors bienvenue au Salon du Livre Porte de Versailles, cet endroit où selon les saisons on croise dans les allées Bobine. Bobine, vous connaissez pas, c'est la vache pombéliarde, lauréate du Grand Prix cette année du Concours Général Agricole. Ou bien vous pouvez croiser aussi Carlos Ghosn, directeur de chez Renault, qui a lu trop de romans d'espionnage quand il était petit. Et quand ce ne sont pas les animaux de la ferme ou les bagnoles, eh bien ce sont les auteurs qu'on entasse au-dessus d'une feuille format A4, comme les poules, pour signer leurs œuvres. C'est d'ailleurs le cas de Frédéric Pommier et de Thomas Legrand, que j'aperçois là-bas. Bonne chance à vous, les gars. Et donc, au Salon, chaque année, on fait, nous aussi, notre moisson de mots nouveaux. Alors, on fait la différence en 8 jours de temps. Vous avez remarqué, on a fait la différence entre les mots « incident », « accident », catastrophe. Et nous, on fortifie dans cette émission des mots en voie de disparition. Ça fera plaisir à Alain Bougrain-Dubourg, abeille, coquelicot, tigre, thon rouge, ours des Pyrénées, et j'en passe. Alors, dans notre grande série, faites un geste vous aussi pour la planète. Un livre, c'est vrai que ça coûte quelques euros, ça marche sans pile, ça marche sans abonnement, c'est léger, inusable, le tout pour un bilan carbone qui tourne autour du kilo équivalent CO2. Alors que les dernières tablettes électroniques, elles frôlent quand même les 130 kilos. Donc, des gadgets à réserver aux gros lecteurs. Que ceux qui lisent plus de 100 livres par an lèvent la main là dans la salle pour voir un petit peu. C'est... Ah, bien, bravo. Et puis là, il y a un jeune homme, disons 100 livres par an, vraiment formidable. Très bien, félicitations. Bref, depuis Gutenberg, on n'a pas trouvé mieux que des bouquins pour raconter nos aventures de grands singes à l'étroit sur leur petite planète. La différence quand même entre l'homme et le chimpanzé, vous l'avez compris, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Autant on emporte le vent, le petit prince, et j'en oublie pas mal. Peu importe l'alphabet, pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors, lecteurs de tous les pays, unissez-vous. Car le vocabulaire, l'art, la culture, contrairement au pétrole, au gaz ou à l'uranium, sont disponibles sur la Terre en quantité illimitée. Il y en aura donc pour tout le monde. Amis auditeurs de France Inter, de CO2 Mon Amour, amoureux des livres, salut à tous! Voilà, alors aujourd'hui, donc, différents invités autour de cette table pour parler de nature, pour parler d'environnement. Nous avons Alain Bougrain-Dubourg qui revient avec un ouvrage extrait de la série de France Télévisions, Les héros de la biodiversité. Ça va nous faire du bien parce que ce sont des gens qui font des choses tout à fait réellement et qui nous offrent aussi un monde intéressant et un monde meilleur. J'ai un petit peu bousculé aussi mon emploi du temps pour demander à Pierre Adane de nous rejoindre. Pierre Adane est donc expert en climat, en énergie depuis de très très nombreuses années, ancien président de l'ADEME, aussi négociateur auprès des pays africains lors des grands colloques, on va dire plus que ça, mais réunions internationales, pardonnez-moi, autour du climat. Et donc on va faire aussi un petit point sur cette actualité. Et puis Dominique Bourg aussi nous a rejoint. Dominique Bourg est philosophe, professeur à la faculté de géosciences de Lausanne. Et avec Kerry Whiteside, vous venez de sortir un ouvrage, il y a déjà quelques temps, qui s'appelle « Vers une démocratie écologique, le citoyen, le savant et le politique ». Alors on va commencer par vous, parce qu'en fait, vous nous expliquez que notre système ne peut répondre aux défis environnementaux et que les démocraties doivent se réformer. Alors l'environnement, on le sait, c'est un impératif qui ne peut pas être éludé, alors que vous rappelez qu'il règne quand même de stupéfiants attentismes aujourd'hui. Et donc cet ouvrage défend l'idée que ce défi est indissociable du défi politique. Bon, on sait que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours eu des crises, on a toujours eu des perturbations. Ça a toujours été la règle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des bouleversements qui aujourd'hui vont de plus en plus vite aujourd'hui. Et donc la situation actuelle n'a aucun antécédent. Si on fait un petit peu le bilan, qu'est-ce que c'est, Dominique Bourg ?
Oui, je crois qu'on peut dire qu'effectivement, c'est complètement unique. Si on fait le bilan de l'environnement au XXe siècle, on peut s'apercevoir effectivement qu'il n'y a aucun antécédent. Je peux aller très très rapidement. On a un peu dézingué la pédosphère, on a mis force engrais, des métaux lourds, on a détruit dans pas mal d'endroits la faune du sol. Au moins la couche supérieure de la lithosphère est devenue un véritable émental. On a changé la composition chimique de l'atmosphère, il y a 40% de CO2 en plus, 20% de protoxyde d'azote en plus, doublement de la quantité de méthane. On a totalement chamboulé l'hydrosphère, on a supprimé une grande partie, au moins la moitié des zones humides, on a changé les côtes, on a commencé à épuiser toute une série d'aquifères pour l'agriculture au monde, on a réduit la biomasse en quantité et en diversité, et finalement on a fragilisé ce qu'on appelle la biosphère, c'est-à-dire cette espèce d'enveloppe de viabilité qui nous permet, nous, humains et les autres espèces, de vivre. Donc le bilan est assez génial quand même.
Si on prend l'image de la pomme que vous connaissez, la biosphère où nous vivons, c'est simplement la peau de la pomme.
Petite couche.
Oui, c'est ça.
Une petite couche. Alors là, on l'a très, très puissamment altérée. Et on ajoute à ça le fait qu'on a quand même fait une immense razzia sur les ressources, par exemple tous les petits métaux semi-précieux, précieux, pour lesquels on recourt aujourd'hui, d'ailleurs depuis assez peu de temps, pour toute l'industrie high-tech. Eh bien, dans certains cas, on a un horizon de visibilité d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années, même pour le fer et l'acier. Si on continuait donc le rythme d'augmentation de la production mondiale qu'on a connu de 1998 à 2008, soit de mémoire 3,5 par an, dans moins de 5 décennies, on aurait épuisé les réserves connues.
Alors, 2000
fer, ça fait beaucoup quand même.
Oui, ça fait beaucoup. Et ce que vous dites très justement, c'est qu'en fait, je dirais que la pollution a été l'arbre qui a caché la forêt du reste. Parce que jusqu'à présent, on a eu énormément, on va dire, de travail sur les pollutions. Mais les pollutions, j'ai l'impression que c'était local. Et maintenant, on n'est plus dans le local du tout.
Alors, la pollution, évidemment, reste un problème. Il y a même un problème à l'échelle de la biosphère avec un certain nombre de pollutions de type d'origine chimique. Certes, simplement, ce n'est qu'un aspect de nos problèmes et on focalise complètement là-dessus. Or, c'est un petit peu gênant parce que quand on parle en termes de pollution, on peut imaginer que pour réduire des pollutions, on peut produire autrement. Par exemple, on va mettre des filtres sur les cheminées, etc. Mais en revanche, si on regarde la globalité des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est-à-dire les problèmes de ressources d'un côté, les problèmes de dégradation de la biosphère de l'autre, avec le changement climatique, avec l'acidification des océans, avec la réduction de la biodiversité, etc., etc., j'en passe, et des meilleurs, le problème, c'est plus simplement de produire autrement, c'est plus simplement de consommer autrement, c'est aussi quand même de réduire les flux de matière et les flux d'énergie, et par là même, de produire moins, et de consommer moins. Oui. Alors ça, la solution
Alors
n'est
là,
plus la même de ce côté-là.
C'est choc frontal avec nos démocraties aujourd'hui.
Alors, d'une certaine manière, oui, parce que nos démocraties, finalement, c'est la tradition libérale de nos démocraties qui l'a emportée. Alors, qu'on m'entende bien, je n'ai rien contre, au contraire, je souhaiterais moi-même qu'on revivifie nos démocraties. Simplement, ce qu'on dit dans ce livre, c'est que le mécanisme qui est au cœur de nos démocraties, qui est ce qu'on appelle le mécanisme représentatif, c'est-à-dire on va élire des gens qui nous représentent, eh bien, il est en quelque sorte décalé par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Si je veux demander à chacune des personnes ici présentes si elle va bien, quel est son sentiment de bien-être, etc., je n'ai pas d'autre solution que de le lui demander. Oui. Maintenant, en revanche, si je me tourne vers des problèmes tels ceux que je viens d'indiquer, eh bien, mon jugement spontané est pris en défaut. Ce n'est pas en sortant de ce hall et en mouillant mon doigt que je vais pouvoir savoir le nombre de ppm en matière de CO2. Les micropolluants qui sont autour de moi, mon équipement sensoriel ne me permet pas de les voir. Si quelqu'un avait eu malencontreuse idée d'avoir un peu de plutonium sur lui, on n'en saurait rien. On percevrait les résultats après, mais sur le coup, on n'en saurait rien. Et donc, la difficulté, c'est que nos démocraties, elles nous permettent, on peut se tromper, un peuple peut se tromper, je veux dire, personne n'est... Mais il a la possibilité de revenir ensuite sur un certain nombre de politiques publiques. Voilà. Ça, c'est vraiment le cœur même du mécanisme démocratique, c'est cette espèce de mécanisme correctif. Or, il ne marche pas en matière d'environnement. Premièrement, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, on ne les voit pas, on les sent pas.
Voilà, ça c'est important.
Ça c'est fondamental.
L'invisibilité aussi.
L'invisibilité, en plus ils sont imprévisibles. Alors, à cela se rajoutent encore deux autres caractéristiques qui sont fondamentales. Il y a une certaine forme d'inertie, c'est-à-dire que les dégradations peuvent se déployer pendant toute une série d'années, de décennies, et puis finalement les dommages ne vont arriver qu'après. Dans certains cas, les dommages peuvent même arriver beaucoup plus longtemps. Si je prends l'exemple du climat, c'est finalement ce qu'on va décider dans les 20 ou 30 années qui viennent, qui vont faire que finalement la seconde moitié du siècle sera vivable ou que ce sera beaucoup moins.
Et nous-mêmes, nous irritons aussi du climat qui a été donc généré par nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, etc., l'ère industrielle.
Tout à fait. Donc la difficulté, c'est qu'en matière d'environnement, avec ces phénomènes auxquels on est confronté, il faudrait anticiper, il faudrait agir à l'avance. Or, c'est très difficile d'agir à l'avance quand on ne voit pas le
gouverner,
problème.
Gouverner, c'est prévoir. Enfin, non, mais c'est un âge qui ne marche pas. Donc, manifestement.
Alors, en matière d'environnement, c'est assez difficile. Si on regarde les grands problèmes qu'on a découverts dans la seconde moitié du XXe siècle, ils ont systématiquement tous constitué des surprises. Alors, donc, ce qu'on propose dans ces livres, évidemment, ce n'est pas de supprimer les démocraties. Elles restent fondamentales pour nos libertés. On peut au contraire proposer de les revivifier parce qu'elles sont en mauvais état. Mais ce n'est pas du tout contradictoire.
Alors, on leur fait de l'oxygène avec
d'autres, voilà, ouais. C'est d'autres mécanismes qui viendrait en quelque sorte les compléter et qui, on souhaite, les propositions qu'on fait, qui pourraient peut-être nous permettre de mieux réagir, en tout cas pas réagir, mais anticiper par rapport à ces difficultés que l'on connaît.
Alors comment on fait là? C'est quoi? On remet une nouvelle couche supplémentaire de quoi? D'experts, de sages, de coachs?
Non, justement, c'est un jeu, ce qu'on essaie de proposer, c'est un jeu justement entre le savant, le citoyen et le politique. Mais le citoyen est au cœur des choses. Et l'information qu'on peut donner aux citoyens reste quelque chose de fondamental. Donc non, on ne propose pas du tout une expertocratie. On propose, par exemple, là, c'est d'ailleurs une proposition qui venait de Pierre-Rosan Vallon, qu'on institue une académie du futur de telle sorte qu'il y ait une information permanente des autorités publiques quant à l'état de la planète. Si je regarde par exemple les sondages qu'a fait d'ailleurs deux fois de suite mon ami Daniel Bois, eh bien on s'aperçoit que nos députés sont en général tout à fait ignorants, puis on ne peut pas leur reprocher non plus, sont ignorants en général des grands ordres de grandeur en matière d'environnement et de problèmes d'environnement. Mmh. Dont des connaissances, même le président de la République a confondu à un moment donné couche d'ozone et effet de serre, donc on est quand même mal parti. Alors, si on a une institution qui informe en permanence et la puissance publique et chaque citoyen, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on propose une espèce de Sénat du futur. Alors,
une académie du futur.
Voilà. Non, l'académie du futur, ça, c'est en quelque sorte
c'est le Sénat, une sorte de
comité d'experts. Mais ce qu'on propose, c'est, on pourrait dire, parce que si on veut remplacer le Sénat, on n'a aucune chance d'y aboutir, mais on pourrait imaginer une troisième chambre qui serait une chambre qui ne serait pas composée d'élus. Nos élus représentent nos intérêts. Alors, nos intérêts d'aujourd'hui ne sont pas forcément nos intérêts de demain. Alors, on pourrait imaginer, effectivement, de lui conférer d'autres pouvoirs. Ça serait tout à fait possible d'évoluer à partir de là.
Les environnementalistes viennent de rentrer
du Conseil économique.
Au nombre desquels je compte, ce n'est pas évident pour démarrer. Mais enfin, ça le mérite de
Alors, j'aimerais
qu'il y ait
un peu plus d'environnementalistes
de la société.
Et parfois, bon, leur modalité de choix peut parfois être revue. Mais l'idée, ça serait qu'on ait une sorte de troisième chambre, mais qui ne serait pas composée d'élus au sens classique, j'insiste. Un élu représente vos intérêts aujourd'hui et maintenant. Pas ceux du pays d'à côté, pas ceux de la planète, et probablement, dans certains cas, on peut s'en apercevoir assez rapidement, pas forcément mes intérêts demain.
Oui. Non, parce que derrière tout ça, on entend bien qu'aujourd'hui, dans les élections, nos élus sont quand même globalement territorialisés. Donc ils vont défendre, là ce sera demain ce sera le département, puis une fois c'est la région, etc. Bon. Alors, réflexion aussi de Pierre Radan, on va dire, sur ce thème, parce qu'il vous écoutait avec beaucoup d'intention, avec des points évidemment aussi de convergence inévitable par rapport aux grands enjeux qui sont posés sur la table. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est peut avoir des limites, ce système-là? Est-ce qu'on ne va pas avoir une couche supplémentaire de quelque chose?
Le point fondamental de départ de la discussion, c'est que ce siècle est complètement différent des siècles précédents et on rentre dans une logique tout à fait nouvelle. Pour le dire dans des termes très simples, l'humanité est mariée avec sa planète. Elle ne fait pas que l'habiter, elle la transforme et ce que va devenir la planète va définir les conditions de vie de l'humanité. Donc chacun d'entre nous est marié avec la planète. Donc nous allons être sur cette planète pendant des millénaires. Vous avez repéré qu'il n'y en a pas d'autres habitables dans le coin. Que l'humanité va finir sa croissance démographique et qu'elle va devoir vivre sur le stock de ressources de cette planète-ci en bichonnant son environnement. Et donc la question fondamentale, c'est la relation de chacun d'entre nous à cette planète. Et comme toujours dans l'humanité, chaque fois qu'on change de période de civilisation, parce que c'est de ça dont il s'agit, on change de système politique.
Et on se tape une déprime.
Ça commence par une déprime. Mais bien sûr, ça commence par une déprime parce qu'on connaît le futur, on connaît le passé, on voit que ce qui marchait dans le passé ne marche plus, et puis l'avenir est un énorme brouillard. Bon, et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment fonder une relation politique entre la personne et la planète. C'est ça la question. Alors, je comprends bien qu'il faille des instances élevées, des grandes assemblées au niveau national ou au niveau international, etc. Mais je crois que le cœur du sujet n'est pas là. Je crois que le cœur du sujet, c'est qu'il faut qu'on rentre dans une démocratie de co-construction, c'est-à-dire que chaque citoyen ou les organisations des citoyens ou des entreprises, etc., soient directement partie prenante de la préparation des décisions. Et on a aujourd'hui, avec les technologies de communication, les moyens de le faire. Alors, dans mon métier, je fais des plans climat.
C'est ce que j'allais vous dire.
Vous impliquez
la population, vous mettez quoi, 500 000 personnes dans le coup,
enfin. Ah oui. Là, en ce moment, je suis en train de faire le plan climat de Toulouse. 500 personnes en atelier qui vont travailler pendant 5 mois sur une question très simple, qu'est-ce que Toulouse doit faire pour tenir dignement sa place dans l'humanité? Bon. Et à partir de ça, on fait bosser les gens. Sur le logement, le transport, etc. Les gens, ils sont 500, c'est-à-dire quasiment un millième de la population du territoire. Et on va leur demander d'écrire quelque chose tous ensemble et avec l'engagement que ce soit publié. Il faut réintroduire du sacré dans la politique et il faut donner aux gens un rôle actif dans cette préparation-là. Et l'ensemble de ces gens vont consacrer tous ensemble 10 000 heures de travail à réfléchir sur le futur. C'est cet étage-là qu'il faut d'abord construire.
Dominique Bourg.
Alors, je crois que les choses ne se posent pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a différents étages. Il y a l'étage local, il y a l'étage national, il y a l'étage international. Alors ça, c'est un aspect du problème. Effectivement, pour chaque niveau, il faut penser au type d'institution, comment effectivement on peut mettre le citoyen dans la boucle, comment on peut amener à correctement l'informer. Si vous regardez par exemple ce qui s'est passé l'an dernier en France, un sondage a été fait, que l'ADEME est toujours ce même ami, qui a montré que, si vous voulez, en 2010, le nombre de Français qui adhèrent à l'idée d'une responsabilité humaine en matière de changement climatique a en un an baissé de 16 points. Alors que ces 16 points-là, on a mis des années à le faire. Donc le problème est très compliqué. En plus, on ne peut pas non plus laisser notre système économique tel qu'on le connaît intact. Et je dirais que par derrière tout ça, ce qui aussi est essentiel à mes yeux, c'est la manière dont on voit les choses. Jusqu'à maintenant, on a toujours imaginé que la nature était un pur décor. Pensez à l'économie néoclassique.
Ou bien un stock.
Mais en tout cas, à la limite, on pourrait dire, c'est ce que dit un historien américain, j'aime beaucoup, McNeill, durant le XXe siècle, les écologues se sont intéressés à une nature sans homme, et les économistes se sont intéressés à une économie sans nature. Alors, les deux avaient tout faux, en quelque sorte. Donc, il y a un changement des valeurs aussi à faire, extrêmement profond. On a quand même un appétit pour les consommations matérielles qui est tout sauf évident et qui est délétère au bout du compte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va retourner à la lampe à huile, surtout pas. Il y a une certaine forme de confort, évidemment, qu'on doit garder.
Non, et puis la lampe à huile, c'est beaucoup de CO2 et c'est un très mauvais rendement.
Et sans technologie, à 9 milliards, je crois qu'on aurait du mal à vivre. Mais cela dit, c'est un immense chantier qui est devant nous. Alors, dans ce livre, on a regardé un aspect de ce chantier qui est l'aspect national, qui est fondamental, d'autant que, je le rappelle, il faut agir très vite.
Mm-hmm. Oui, mais ça,
Et on a déjà pris un sacré retard sur un certain nombre de problèmes. Alors, d'où les propositions, si vous voulez, qu'on fait, mais elles n'excluent évidemment pas d'autres choses, c'est évident.
Donc, vers une démocratie écologique. Hein. Je n'ai pas dit que c'est édité au Seuil dans la collection La République des idées, et ça secoue bien le paysage, c'est intéressant. Alors, des gens qui évidemment sont dans le coup, ce sont des gens ordinaires, des gens dont on parle peu, et ça, vous avez voulu les mettre en avant, Alain Bougrain-Dubourg, avec cet ouvrage, donc Les héros de la biodiversité, Passion Nature, aux éditions donc Ouest France. Vous commencez d'ailleurs très très joliment par une citation de Saint-Augustin, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Eh oui, il vaut mieux se perdre dans sa passion que de perdre sa passion, ce qui est quand même évidemment pas mal. Et alors, on va rencontrer des gens qui s'intéressent aux mérous, des gens qui s'intéressent au plancton. Vous imaginez, les gens se foutent complètement du plancton, alors qu'en fait, c'est fondamental, c'est fondamental. C'est un capteur d'énergie, ça pompe le CO2, ça vous renvoie de l'oxygène, ben c'est dingue. René Rozou, par exemple, nous parle du bison d'Europe. On rencontre des médecins des mers, des pisteurs d'anguilles. Claude et Lydia Bourguignon, qui sont venus déjà plusieurs fois dans cette émission et qui mettent en avant les vertus donc, du sol. Donc c'est ça que vous avez voulu faire, parce qu'on a besoin quand même de respiration et d'exemplarité. Et il y a des gens qui font, et ça marche.
Oui, alors moi, je me suis... assez longtemps battu en ayant le rôle qui n'est pas le plus agréable, qui consiste à dénoncer, à montrer du doigt, à accuser parfois.
Vous êtes peut-être l'écologiste qui a le plus de gilets pare-balles dans, dans son vestiaire.
De ce côté-là, oui. Les chasseurs ne sont pas vraiment mes potes. Bon, peu importe. Et là, au contraire, c'est une façon de rendre hommage à tous ceux qui, scientifiques, maires d'un petit village, d'une commune, citoyens devenus éco-citoyens, eh bien, s'investissent souvent dans l'ombre pour porter le message de l'espoir de façon remarquable. Et à propos de ce qu'on vient de dire et de la gouvernance, il y a une chose qui m'a frappé. Depuis que le vivant est arrivé sur la planète, on va dire 3,5 milliards d'années, on sait aujourd'hui qu'il y a environ 1 900 000 espèces identifiées. Eh bien, l'homme est le seul à choisir de s'affranchir partiellement ou totalement de son milieu naturel. Mmh. Tout le vivant qui nous entoure, dans son histoire, depuis 3,5 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, dépend du milieu naturel. L'homme va au-delà. Et donc, on peut se poser des questions assez fondamentales sur notre avenir, parce que c'est un choix terrible, terrible. Il ne faut pas nécessairement le rejeter, mais il est quand même assez révélateur. La deuxième chose que je voulais dire à partir de ce qui est évoqué, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif, même si on est en retard, la prise de conscience est aujourd'hui avérée. Plus personne, sauf certains anciens ministres, ne peut douter qu'il y a un vrai problème sur cette fragile planète. Bon, alors ça, c'est quand même un pas important, parce que nous tous, autour de cette table, combien de temps avons-nous passé à essayer de convaincre pour démontrer, me concernant, que la biodiversité était fragile, qu'actuellement une espèce de batracien sur 3 disparaît, une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8. Et quand on dit ben, il faut sauver l'outarde canepetière, le busard, que sais-je encore.
On va cliquer sur l'outarde canepetière. Parce que ça, pour des gens, ça c'est formidable, parce qu'on rencontre une femme dans votre ouvrage qui s'appelle Caroline Attier. Et donc, l'outarde canepetière passe face à l'intensification agricole. Elle n'est pas très, très bien. Loin de là, les gens ne savent même pas ce que c'est. Et pourtant, elle est aussi fondamentale parce qu'elle existe aussi dans ce vivant. Qu'est-ce qu'elle fait?
Alors, d'abord, moi, enfant, dans les Halles à Paris, je voyais sur les devantures des marchands de gibier, des faisans, tu as dû en voir, et des outardes canepetières. Eh bien, la population s'est réduite de plus de 50% dans ces quelques dernières années, tout simplement en raison de la modification des pratiques agricoles. Alors, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, Carole Attier, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le CNRS, on a décidé de récupérer des œufs d'outarde et de monter un élevage, notamment à Chivet, aux Oramas de Chivet. Et on commence
dans les Deux-Sèvres.
Voilà, dans les Deux-Sèvres, et on commence à avoir des poussins qui repartent en migration vers l'Espagne et le Portugal. On les a équipés de balises argos. Ils reviennent chez nous, ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que on a impliqué dans cette affaire les chasseurs, les agriculteurs, etc. Parce qu'il ne s'agit pas de refabriquer le vivant. Il faut que le vivant continue à s'épanouir dans le milieu naturel. Donc voilà, c'est un très bel exemple extrêmement positif.
Nous allons picorer dans d'autres exemples les uns et les autres. On va poursuivre donc cette conversation. Ce sera après cette chanson. C'est REM, n'est-ce pas? C'est You Berlin. Je me tourne vers toi, Valérie. C'est bon, donc c'est bien ça. Crap!
Théo de mon amour, Denis Chessou.
Oui, toujours en direct du Salon du Livre de Paris, me semble-t-il, avec autour de cette table Pierre Radan, Dominique Bourg, Alain Bougrain-Dubourg et Frédéric Lisa qui vient d'arriver. Cher Frédéric, ami toulousain, on a parlé de Toulouse tout à l'heure. Toujours en picorant dans ces rôles de la biodiversité, donc aux éditions Ouest-France, Alain Bougrain-Dubourg, il y a énormément d'exemples, mais je voudrais qu'on focalise un petit peu sur les coraux. Là aussi, c'est-à-dire qu'on sait que ça fait partie de ces pouponnières indispensables qui fabriquent de la biodiversité à n'en plus finir. Et vous avez rencontré un homme qui s'appelle Franck Mazéas. Et vous le présentez en disant qu'il est sage-femme pour les coraux.
Oui, avec un autre garçon que j'aime beaucoup, Dominique Barthélémy d'Océanopolis. Et eux se passionnent pour les coraux. Il faut dire qu'actuellement, les récifs coralliens sont les écosystèmes les plus menacés au monde, davantage que les forêts, davantage que les zones humides, et pour mille et une raisons. Alors eux, ils se battent pour essayer de donner une nouvelle capacité d'épanouissement des coraux, enrayer la dégradation, bien sûr, et ça consiste notamment, et là j'ai vécu ça sur la grande barrière de corail, à assister à la naissance des coraux. Alors c'est après la pleine lune de septembre, voilà. À 9h30 du soir, vous plongez, et là ils sont extrêmement ponctuels, mais ça peut être pas forcément le jour prévu, ça peut être le lendemain ou surlendemain, mais toujours à 9h30, et d'un seul coup, les polypes s'ouvrent, les gamètes sortent, c'est-à-dire des larves mâles et femelles, et vous allez assister à un spectacle le plus prodigieux de la planète. C'est encore plus extraordinaire que la migration des gnous que j'ai eu le bonheur de voir aussi. Et là, d'un seul coup, il y a de la neige à l'envers. C'est-à-dire que ces gamètes, mâles et femelles, vont monter, et les scientifiques vont essayer de les capturer avec des filets, vont remonter ces larves, vont isoler les mâles et femelles, vont faire une sorte de bouillon, et vont essayer de favoriser la reproduction sexuée des coraux en captivité. De la même façon, à Océanopolis-Brest, depuis près de 20 ans maintenant, ils arrivent à faire du bouturage de corail. Mmh. C'est notamment Barthélémy qui le fait de façon remarquable. Ça signifie en clair qu'on a peut-être la capacité, dans les zones où les coraux sont les plus atteints, de replanter, de recultiver. de redonner espoir à cette vie indispensable, puisqu'évidemment, c'est le milieu qui génère un cortège de vivants. Il y a les poissons, etc., enfin, tout ce que l'on sait. Voilà, alors ça, c'est un grand moment que je résume, que je raccourcis. Mais quel bonheur de voir cette vie s'épanouir quand on a la chance d'être observateur.
Mais ça pousse un peu moins vite que le bambou, vous l'avez remarqué, parce que le coraux, c'est en un an, c'est entre 1 cm...
1 cm et 10 cm carrés.
10 cm, donc vraiment, faut faire attention à ça. Et là aussi, ce sont nos modes de vie qui sont donc derrière. Je disais Frédéric Lisac, qui est un garçon, alors à la fois qui est auteur, mais qui est aussi éditeur. Éditeur des éditions Plumes de Carotte, qui ont 10 ans cette année. Donc, et bon oui. anniversaire.
Enfin, merci. Demain exactement.
Demain, ce sera 10 ans sur Frédéric, toulousain. Et alors, là, je vois un ouvrage qui s'appelle « Je découvre la mer ». Dans l'atelier Mon Petit Loup, j'avais présenté « Je découvre la rivière ». Là, c'est la mer. Et alors, on parle régulièrement, et fort heureusement, de manger local. Mais alors, vous éditez local. C'est un peu, ou lire local. C'est
on
un peu
lit
ça.
Local.
On lit
local. On essaye, racontez. Effectivement, dans ces coffrets de livres, ces livres coffrets pour enfants, qui ont pour but principal de leur donner envie de lire, mais surtout de leur donner envie d'aller toucher, d'aller voir cette nature de proximité. Déjà, on va mettre différents éléments de découverte du milieu, de part de rêve aussi. Il peut y avoir le côté fiction qui peut être un support très important pour sensibiliser les enfants à la richesse, au merveilleux, moi, au côté merveilleux de la nature. Je trouve que c'est un moteur très, très puissant, pédagogique, par rapport aux questions qui ont été soulevées, aux questions très graves qui ont été soulevées dans cette émission. Le côté merveilleux peut vraiment être vraiment un moteur puissant, oui, pour des enfants de n'importe quel âge, je dirais, même les très grands enfants.
Et qu'est-ce que c'est comme bestiole là ?
Alors, et justement, pour les inciter, on a mis un,
vous êtes à la
on
radio,
a mis un gadget des images, dedans, oui, qui est tout sauf un gadget.
C'est pas, oui, non, mais c'est pas plus gadget quand même votre affaire. Qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est une capsule d'œuf de raie.
Ah.
Voilà, c'est-à-dire dans chaque livre, il y a un objet unique. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, on n'a pas fait d'élevage comme pour les
auteurs. Rassurez Bougrain immédiatement qui commence à faire des gros yeux
tout à l'heure. Okay. Ce sont des capsules en fait qu'on trouve sur les plages. Une fois que la petite raie a éclos, la capsule se détache des algues et vient s'échouer sur les plages. Et on a travaillé avec une association de Bretagne qui s'appelle l'APEX, qui nous a récolté 7000 capsules d'œufs de raie pour qu'il y en ait une dans chaque boîte. Et avec ce côté un petit peu magique, justement, que c'est un objet réel qu'on peut aller trouver soi-même sur une plage. C'est banal, c'est simple, mais le banal et le simple peut aussi devenir merveilleux quand derrière il y a le côté unique, le côté nature et histoire qu'il peut y avoir derrière. Voilà, et donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire dans ce genre de coffret, avec, comme vous le disiez, lire local, éditer local, c'est-à-dire que c'est un coffret pour enfants, mais qui a 100% été fait et conçu en France. On sait effectivement que dans le livre pour enfants, il y a des choses absolument merveilleuses, mais avec une économie qui pousse à aller le faire en Asie ou en Europe de l'Est. Bon, mais nous, dans une certaine démarche de une cohérence, je dirais, du propos qu'on essaie de porter, on fait en sorte que tout ça soit conçu et assemblé localement.
Alain Bougrain-Dubourg.
Oui, puisqu'on parle du monde merveilleux des enfants, je voudrais vous proposer un ouvrage remarquable, « La biodiversité, c'est la vie ».
Oui, il est gentil.
Alors là, il exprime cet ouvrage en photo, en illustration, de façon très synthétique.
Je crois qu'il y a un très bon auteur, non, c'est ça
Attends, on va le dire dans un instant. Disons du bien de l'ouvrage d'abord. Ben, ce qu'est le vivant sur notre petite planète bleue au milieu de 100 milliards d'étoiles. Et là, il y a toute l'expression de la biodiversité qui inclut évidemment les animaux domestiques. Faut pas les oublier. Ils comptent énormément et on retrouve la biodiversité de la mer, les espèces les plus menacées, récifs, oasifs, que sais-je encore. Beaucoup de photos, un texte remarquablement écrit. Alors ça, j'ai cherché à connaître l'auteur. Oui. Qui pouvait écrire avec une telle plume? Oui. C'est Frédéric Danhé, bien sûr, mais c'est notre ami Denis Chessou. Bravo.
Vous êtes bien bon, merci beaucoup. Oui, on ne peut pas tellement en parler, donc c'est normal. Mais c'est pour les enfants, effectivement, à partir de 9-12 ans. C'est 9-12 ans. Et si je me dis une chose, c'est que si les parents arrivent à lire ce livre, ils seront très, très au point sur la biodiversité.
Exactement.
Et ce sera déjà pas mal. On va passer vraiment à un autre sujet, parce que là, ça va être moins fun, mais c'est tout aussi indispensable. Donc Pierre Radan, je le rappelle, donc expert en climat et en énergie, on souhaitait vous avoir aussi avec nous quand même pour faire un petit point sur cette actualité. Il s'est dit beaucoup, beaucoup de choses évidemment sur le Japon et sur Fukushima. Donc peut-être vous laisser la parole sur ce thème avec déjà le recul de 8-9 jours.
Le Japon est en train de connaître une blessure considérable. On fait souvent des comparaisons ces jours-ci entre Tchernobyl et Fukushima. Tchernobyl est un accident qui est dû à la bêtise humaine. C'est-à-dire que les gens de la centrale avaient supprimé toutes les sécurités, faisaient des expériences, ça a mal tourné et on est rentré dans une séquence explosive, hein, que chacun s'en souvient. Mais avec, d'un certain sens, une chance, c'est que cette centrale de Tchernobyl, elle était dans un territoire presque vide, très très peu peuplé. Et là, on a un accident dans lequel il n'y a aucune responsabilité humaine. C'est une colère de la nature avec ce tremblement de terre et ce tsunami. Dans l'une des régions les plus peuplées du monde. Et donc avec...
Et qui se ramasse le plus de séismes aussi au monde.
Oui, alors le Japon a la moitié des tremblements de terre dans le monde. Et le Japon a inventé le mot tsunami. Et là, il y a quand même une interrogation à se poser. Comment se fait-il que le Japon, qui a une culture forte sur ces choses-là, n'ait pas anticipé une protection de ses centrales littorales de telle sorte qu'elles ont été envahies par l'eau et que, bien évidemment, quand l'eau rentre partout et avec la violence dans laquelle cela s'est manifesté, bah, bien évidemment, tous les circuits électriques ont été grillés. Et donc, on a perdu le contrôle de toute une série d'installations. Donc, vous avez 6 réacteurs qui sont aujourd'hui complètement maintenant hors d'usage et avec une tentative désespérée de centaines de personnes qui vont probablement y laisser leur vie, ces liquidateurs, pour essayer de sauver le pays. Et derrière, inévitablement, toute la zone autour de la centrale va être condamnée. Donc on va avoir une île étroite dans un pays où la communication est difficile. Et vous allez avoir pendant des décennies un chancre qui va être cette zone interdite à tout le monde. Et là, vous allez avoir une blessure. Le Japon va en sortir terriblement traumatisé.
Alors, Pierre Radan, avant de passer sur l'avenir du nucléaire, vous faites aussi un constat. Entre les différents métiers qui ont une forte expertise.
Oui, alors, ça rejoint ce que disait Dominique Bourg tout à l'heure. Vous avez, dans l'actualité pressante, 4 fois où on a fait la même erreur. Vous avez un corps technique extraordinairement sophistiqué, des gens qui sont l'élite de la nation, qui aiment leur métier, qu'ils font avec énormément d'attention, bien sûr, dans leur métier d'industriel, sont contrôlés par des instances de contrôle, mais c'est en fait leurs anciens camarades d'école, c'est des gens du même milieu. Et puis leur technique est tellement sophistiquée que finalement, personne d'autre ne sait les contrôler. Les contre-pouvoirs n'ont pas de prise et le politique est très très faible par rapport à la complexité de ces techniques et la manière dont ces gens en permanence valorisent leur savoir-faire, rassurent en permanence. Et on voit bien que cette question s'est faite et caractérise l'industrie nucléaire chez nous et au Japon et notamment a fait que il y a une espèce d'auto-illusion,
d'autonomisation,
d'autonomisation d'un corps technique qui perd le contrôle derrière. Je voudrais attirer votre attention, c'est que ça fait 4 fois que ça nous arrive en quelques années.
Et pas qu'en nucléaire.
Il y a la question du nucléaire, bien évidemment. On a eu le même problème sur le pétrole. On sait depuis 15 ans qu'on allait revenir dans une période de tension du pétrole, tout simplement parce que les pays émergents consomment davantage et que les ressources sont en train de se réduire. Eh bien, l'Agence internationale de l'énergie, qui était l'institution internationale pour nous protéger de nouveaux chocs pétroliers, a été la dernière à reconnaître l'augmentation des prix du pétrole et à reconnaître qu'on avait devant nous des problèmes de ressources. Encore une fois, une bulle des gens qui s'auto-illusionnent, qui croient tellement dans leur métier, qui perdent complètement toute distance et qui n'a pas de contrôle derrière.
Bulle financière.
Troisième cas, la bulle financière. Des techniciens très sophistiqués nous disent qu'ils ont des produits financiers dans lesquels personne ne comprend rien. Et puis au moment où la bulle financière éclate, non seulement on s'aperçoit qu'ils étaient contrôlés par personne, mais qu'en plus ça trichait à qui mieux là-dedans. Et quatrième cas derrière, exemple tout récent sur les questions de laboratoires pharmaceutiques, où on s'aperçoit que les laboratoires pharmaceutiques ont une connaissance très sophistiquée de leurs produits et que même parfois, les gens qui sont censés les contrôler sont payés par les industriels qui font les produits. Donc vous voyez, on a là un vrai problème qui est un problème de contrôle. Et moi, je demande qu'on avance dans une société... une démocratie technologique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs à la hauteur des pouvoirs, parce que sinon, nos sociétés, encore une fois, s'auto-illusionnent, et vous voyez les drames vers lesquels ça nous conduit.
Dominique Bourg.
Oui, alors, je dirais quand même qu'il y a une certaine forme de responsabilité, mais qui n'a rien à voir avec celle de Tchernobyl. Effectivement, Tchernobyl, c'est une équipe qui vient de Moscou et qui débranche tous les systèmes de sécurité. Là, maintenant, les informations sont en train d'arriver. On apprend que sur ce type de générateur, le refroidissement était quand même une fragilité. Un certain nombre d'experts l'avaient mis en évidence. On n'en a pas tenu compte. Apparemment, les générateurs diesel étaient quand même à une hauteur telle, je veux dire, que finalement, s'il y a un tsunami, forcément, ils sont noyés.
Et puis, on a aussi un TEPCO, pardon, privé, voilà, qui a dissimulé de très nombreuses données sensibles depuis
beaucoup
des années,
choses depuis très, 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 très longtemps. Donc, il y a toujours une certaine forme de responsabilité. Alors, voilà, la difficulté, c'est qu'avec le nucléaire, et moi-même, je suis en train un peu de changer d'avis là-dessus. Je me disais, ben, finalement, ça peut permettre peut-être, dans la transition très difficile, avec la déplétion du pétrole et tout, de s'en tirer. Et puis, on s'aperçoit que c'est une technologie qui exige le risque zéro. Alors, on sait très bien que le risque zéro, ça n'est pas possible. Et dès qu'on a un pépin, on ne maîtrise plus rien. Et après, on s'enferme pour des siècles dans cette absence de maîtrise avec ses conséquences qui est assez horrible. Moi, je dirais de manière plus générale, ça montre aussi la fragilité de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a construit des systèmes technosociaux qui sont extrêmement sophistiqués, qui ne fonctionnent finalement que pour autant que la nature est un décor inerte. Un petit téléphone quelque part et vous n'avez plus de trafic aérien. Un accident nucléaire et finalement vous voyez toutes les suites. C'est-à-dire c'est le revers de notre puissance.
5 cm.
Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. On a considéré que la nature était un décor inerte. Or, elle ne l'est pas. Et le siècle qui vient, elle va nous le rappeler. Elle va nous secouer quand même pas mal. Et donc, il serait quand même temps qu'on revienne et qu'on repense à des systèmes techniques et sociaux avec une plus grande résilience.
Alain Bougrand-Dubourg.
Oui, je voudrais faire une remarque suite à une émission de télévision que j'ai vue hier soir sur France 2, où j'ai vu Claude Allègre et Patrick de Carolis qui ont souligné un décalage dans le débat. En clair, ils ont indiqué il est scandaleux de s'intéresser aujourd'hui au nucléaire. La priorité, c'est le tsunami et c'est le drame de ces gens. Drame terrible. Disant notamment que la France n'avait rien fait. Ça n'est pas vrai. La France a envoyé des pompiers, des techniciens, etc., dans une configuration extrêmement difficile. Et deuxièmement, c'est toujours quand il y a des drames qu'on réveille nos consciences et qu'on réveille notre intelligence. Et il est opportun aujourd'hui de parler du nucléaire. Comme au lendemain de l'Erika, il y a 11 ans, 12 ans, on a parlé du transport maritime. Quand au lendemain de la tempête, on a parlé des plantations forestières. Quand, on peut multiplier les exemples. Malheureusement, ce sont les drames qui nous amènent à avoir une conscience meilleure et un engagement futur plus responsable. Donc, il n'y a pas de honte à parler du nucléaire, même si on accompagne le drame des Japonais.
En revanche, Pierre Adam, entre guillemets, c'est pas forcément un drame si la France est un pays extrêmement proliférant dans le monde.
Oui, alors là on passe à un degré supérieur de défaillance de responsabilité. Hein. Vous savez que la France a donné la bombe atomique à Israël en 1956, qu'on a équipé en réacteur de recherche Saddam Hussein, qu'on a vendu des réacteurs au Shah d'Iran juste avant la révolution iranienne, et qu'on a donc multiplié les situations de ce type. Alors, les deux pires, où là, on voit bien que les intérêts commerciaux... bafoue toutes les exigences morales. On a essayé de vendre au général Zia au Pakistan une usine d'enrichissement de l'uranium, heureusement, qui ne pouvait servir qu'à fabriquer sa bombe. Hein. Oui. Et heureusement que les Américains nous ont empêchés de la livrer. Mm-hmm. Bon. Et il y a, ce qui est encore plus triste, il y a à peine quelques années, le président de la République a essayé de vendre un réacteur à la Libye.
Et Anne Auberjon a dit non, je ne le livrerai pas.
Donc si vous voulez, en plus la Libye n'a pas besoin d'eau parce que elle exploite une nappe aquifère. Non. Tu as une nappe aquifère souterraine en Libye. Le problème de la Libye, de tous les spécialistes de l'eau, c'est que ce pays gaspille l'eau. Et donc ils ont même pas besoin de dessalement et on s'est fait effectivement embobiner par Kadhafi. On lui a promis de lui vendre un réacteur. Donc oui, il y a quand même là un problème de encore une fois. Je n'essaie pas faire à ce moment-là le procès du nucléaire. Je fais le procès de l'insuffisance de responsabilité dans les actes humains par rapport aux technologies sophistiquées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans une démocratie dans laquelle il y a équilibre entre le pouvoir et le contre-pouvoir, qu'il y a un vrai débat moral dans nos sociétés, et là, on est en défaillance grave.
On va dans le sens inverse même, je dirais, totalement, puisque aujourd'hui, on a des marchés privés qui mettent en quelque sorte à genoux les États. Et souvenez-vous de ce qu'on avait conseillé à la Grèce, hein, de vendre une partie de son patrimoine pour pallier la dette. Et Cameron voulait vendre des forêts patrimoniales anglaises. Pareil, c'est-à-dire qu'on est cul par-dessus tête. C'est-à-dire qu'on voit dans la logique financière la logique première, celle qui doit être l'étalon de tout. Or, le problème de TEPCO, c'est déjà celui-là. C'est que la logique financière est passée avant les avertissements en termes de sécurité. C'est la raison pour laquelle les digues n'étaient pas assez élevées, etc., etc. Donc on est bien là, au cœur du sujet.
Y aura-t-il, Pierre Radin, on va dire, un changement de politique énergétique? Bon, juste deux chiffres pour ne pas vous abreuver. Aujourd'hui, le nucléaire, en tant qu'énergie primaire dans le monde, c'est environ 6%. Donc là, je parle bien de l'énergie primaire. Et le nucléaire assure 15% de la production électrique, cette fois-ci, donc mondiale. Donc le mot d'ordre, on l'a bien compris en France, c'est qu'on ne va pas changer, on va continuer dans ce sens-là. Il faut sauver la filière EDF, il faut être positif. On nous dit aussi que ce sera une chance pour l'EPR, qui certes est plus cher, mais c'est un modèle plus en sécurité. Les Verts, effectivement, donc on fonçait dessus en disant référendum, c'est ce qu'il nous faut, etc. Remettre en question donc, cette politique, ça a toujours été bien sûr le fonds de commerce des Verts. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez un petit peu envie de dire par rapport à ce thème-là?
Bon, écoutez, je crois qu'il faut. On a entendu beaucoup de bêtises. Je dirais de tous les côtés ces derniers jours. Et il faut donner aux gens qui nous écoutent quelques éléments simples. Est-ce que avoir du nucléaire ou ne pas avoir du nucléaire, est-ce que dans les pays qui composent le monde aujourd'hui, est-ce que c'est un atout économique ou pas? Ben, en fait, on doit constater qu'en fait, ça ne joue pas. Vous avez des pays qui ont énormément de nucléaire comme la France ou la Belgique. Vous avez des pays qui n'ont pas de nucléaire comme le Danemark ou les Pays-Bas ou l'Autriche ou l'Italie. Est-ce qu'ils sont restés complètement en retard? En fait, le fait d'avoir du nucléaire ou non n'est pas du tout un avantage ou un inconvénient de développement. Donc ça veut dire que le choix est ouvert. Bon. Après ça, quels sont les problèmes énergétiques qui sont devant nous et comment prendre le sujet? Eh bien, il est clair aujourd'hui qu'il faut qu'on soit extraordinairement économe en énergie, que ça va être la valeur fondamentale du 21e siècle va être l'optimisation de l'utilisation des ressources. Faire des matières premières, de l'énergie, mais aussi de la production biologique de la planète, le meilleur usage possible. Ça va être la condition, bien sûr, de la cohésion sociale et la condition de la paix dans le monde. Donc, priorité à l'économie d'énergie et de matières premières, y compris dans nos comportements, avec une certaine sobriété. Il faut comprendre que c'est la nouvelle définition du progrès. C'est une culture dans laquelle on va être plus intelligent, on va davantage utiliser les choses. Bien évidemment, utiliser massivement les énergies renouvelables, ça ne s'épuise pas. Ça peut avoir quelques inconvénients, mais vous voyez bien que ce n'est pas des inconvénients.
Tout en sachant qu'elles seront matures d'ici une vingtaine d'années. Je ne parle pas de l'hydroélectricité non plus, ni de la biomasse, mais sur le photovoltaïque, on a démantelé.
Voilà,
sur
on progresse. Etc. Alors, bon, globalement, sur un pays comme la France, hein, on peut faire avec les énergies renouvelables aujourd'hui les deux tiers de la production énergétique. à condition, bien sûr, d'être économe. Alors, derrière cela, il y a deux points...
À horizon 20 ans, 25 ans quand même, ou pas?
Oh, d'ici 2050, oui. Il y a deux points sur lesquels il faut être très vigilant, qui vont être des points extrêmement importants à côté de la question de la production électrique. C'est la question des transports. Il faut que les transports courte distance, on les sorte du pétrole. Et là, pour le coup, ça passera en grande partie par l'électricité et par le véhicule hybride. Et puis le deuxième point, c'est qu'on va être obligé de séquestrer le carbone, de stocker le carbone dans des couches profondes. Mais on prend du pétrole, eh bien on peut remettre du gaz carbonique, là on a pris du pétrole. Alors c'est vrai, du pétrole ou du gaz, voire mettre ce gaz carbonique, non pas dans l'atmosphère, mais dans des couches profondes, à condition de vérifier qu'elles soient étanches. Et c'est comme ça qu'on pourra faire la transition dans ce siècle. On rentre dans une énorme transformation, parce que bien évidemment, moi j'ai fait des scénarios, je dirais, qui ont inspiré la loi de 2005 en France, et je fais des scénarios où on réduit l'effet de serre tel qu'on doit le faire, sans nucléaire, mais à la condition de réunir tout ça. Nos sociétés ont le choix, mais à condition qu'elles démarrent vite et qu'elles trouvent une cohésion dans cette vision du futur, et c'est ça qui va être le caractère essentiel.
Il y a un véritable débat des deux côtés. On s'est rendu compte que le marché du CO2 a bondi de 5% parce qu'on s'est dit qu'il y avait une nécessité d'acheter des quotas de CO2 plus importants, parce que le pétrole, le gaz et le charbon, dans un court terme et peut-être un moyen terme, vont rebondir encore plus. Réaction Dominique Bourg.
Je partage parfaitement ce que vient de dire Pierre Hadane, mais je rajouterais que pour aller dans ce sens-là, et c'est une nécessité et d'y aller assez vite, on le fait pas sans des changements profonds, notamment des changements, par exemple, fiscaux. C'est la fiscalité qui doit passer du travail à la consommation de ressources. C'est tout le dispositif institutionnel, d'où une démocratie écologique, qui doit nous conduire à faire évoluer nos comportements. Et ça, il faut le faire avec l'accord et l'assentiment du citoyen, ce qui présuppose qu'il soit correctement, très correctement informé, et qu'on lui montre que cette économie plus économe de ses ressources, c'est certainement pas plus de malheur, c'est au contraire plus de bonheur. C'est aussi s'arracher à une espèce de pression immédiate et folle, parfois pour pas grand-chose.
Alors c'est la diversité qui prime dans cette émission depuis qu'elle existe, depuis de nombreuses années. Nous allons passer, et c'est quelque part, c'est aussi un peu les mêmes sujets qui peuvent se rejoindre, mais nous avons ce soir, cher Alain Bougrain-Dubourg, et là je me tourne vers le président de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Nous allons écouter ce son, tenez, écoutez.
Ouais.
Ah oui, alors ça c'est une chouette ulotte, hein. Vous l'avez remarqué ici dans la salle, vous êtes très au point, vous êtes bien d'accord, c'est pas un hippopotame, c'est une chouette ulotte. Pourquoi la chouette ulotte? Parce qu'elle n'est pas invitée ici, mais pourtant elle va s'inviter ce soir, ça va être la nuit de la chouette. C'est une opération vraiment formidable qui a lieu, alors c'est pas le
tous
titre
les deux
d'un...
Ans.
Tous les deux ans, c'est pas le titre d'un livre de série noire, hein. C'est un spectacle gratuit qui va se jouer donc dans les bosquets, près de chez vous. La ulotte, la chevette, la chouette effraie, que sais-je, le grand-du, vont s'inviter donc chez vous avec la LPO, la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, et là aussi, on a besoin de Bourg, on a besoin de se dire que c'est à côté de chez nous. Ça.
Voilà, l'idée est d'abandonner la télévision pendant quelques heures, chouette, pour une soirée, et de partir à la rencontre de ces naturalistes qui vous attendent, cette communauté d'ornithologues qui est là pour vous éclairer, qui va vous emmener voir les êtres de la nuit, et plus singulièrement, sans doute, les chouettes et les hiboux.
Et si
c'est
vous...
très convivial, c'est sympa, ça marche très très bien. Partout en France, il y a des relais. On n'a qu'à aller sur le site LPO.
Il y est sur le site, voilà. Le vôtre aussi, il y est sur le site de CO2 Mon Amour. Un CD est sorti, Chouette et Hibou de France et d'Europe. C'est aux éditions Nage Vert Productions, donc un guide sonore avec des documentaires. Et puis j'ai aussi, Alain, donc un livre très beau qui s'appelle Toile de mer, avec des peintures d'Olivier Suir-Verlet. Vous avez fait les textes, Alain Bougrain-Dubourg, aux éditions PC. Là, c'est votre amour de la mer et vous donnez des définitions personnelles, des mots estrants, des mots mer, des mots marée, des mots plancton, mais avant tout, il y a un travail formidable de ce peintre.
Ah ben, Olivier Suir-Verlet est un peintre remarquable. On est tous les deux des enfants de l'île de Ré. Et puis voilà, un soir où on refaisait le monde avec Philippe Chauvron, on a décidé de se lancer dans la conjugaison des mots et des peintures à travers un regard sur l'estran, la mer, le littoral.
Eh bien, un grand merci à vous. Donc, les héros de la biodiversité, c'est chez Ouest France. Dominique Bourg, Kerry Whiteside, vers une démocratie écologique qui nous a bien animés aussi dans la République des idées aux éditions du Seuil. Merci à vous, cher Pierre Radan, d'être venu, vraiment avec cette actualité et de nous avoir donc éclairés. Merci à Yann Fressy, à Pascal Baudin aujourd'hui à la technique, à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza, à Valérie Ayestaraï qui réalisait l'émission, à notre cyberdocumentaliste, hein, plein de sites grâce à Anne Bouzon qui nourrit les sites de CO de Mon Amour. La semaine prochaine, ça va être une ronde de printemps. On va se faire plaisir avec vraiment nos intervenants qui vont être dans toute la France, qui vont dire comment le printemps arrive. L'Atu du Monde qui nous, ce sera demain à 19h54 après Les Petits Bateaux. Denis Chessou, je vous souhaite une excellente journée. Mais vous allez rester là car ma copine Colombe Schneck va prendre la place. Merci à toutes et à tous.